marchant. Orchan, bonsoir à toutes et à tous. Orchan ce soir en compagnie de René Vautier. René Vautier, vous souvenez-vous des fêtes de la mer à Camaret ?
Oui, oui, il y a bien longtemps, oui. Je m'en souviens surtout parce qu'à l'époque où j'avais 5 ans, 6 ans, et il y avait un poète qui organisait chaque année des distributions de livres et il se déguisait, il appelait ça un issu de la mer et il s'appelait Saint-Paul Roux et j'étais déjà par ma maman qui était institutrice et qui était une admiratrice de Saint-Paul Roux, j'ai déjà commencé à connaître ce poète et puis à avoir envie de raconter des choses. C'est un petit peu lui qui m'a amené à la poésie, à l'expression par les poésies des autres, pour amener les gens à partager un certain nombre de luttes. C'est comme ça que finalement, pour avoir cherché à faire connaître les poèmes quand nous étions en période d'occupation en France, j'ai cherché à faire connaître les poèmes de résistance de Victor Hugo. Et puis, un professeur de français de l'époque, un monsieur Trélu, T-R-E-2-L-U, qui est parti en Angleterre après m'avoir demandé, c'était en 42, après m'avoir demandé de continuer à former les gens à l'idée d'une lutte à partir des poèmes que je pourrais trouver. Et il s'est arrangé pour que j'en reçoive. Et j'ai reçu comme ça pendant quelque temps des poèmes qui étaient tous sans signature, mais qui m'ont fait connaître Aragon, Éluard, et puis des gens qui ont disparu dans la tourmente de la guerre, mais qui essayaient de se battre avec leurs écrits.
Et mais moi, vous aussi, vous êtes battu, puisque vous êtes rentré dans la résistance en 1944.
Oui, mais j'avais commencé auparavant, en 1942-1943. J'avais donc 14-15 ans. Je lisais les poèmes que l'on m'envoyait et qui étaient des poèmes, tous des poèmes de résistance. Le fait de lire des poèmes de Saint-Paul Roux m'avait amené à me dire il y a des choses qu'il faut transmettre. Et là, je transmettais les écrits des autres qui étaient des écrits de résistants. Je suis passé moi-même à la résistance quand j'avais 15 ans. Quoi. Et puis,
vous avez perdu des camarades.
Oui, c'est très curieux cette histoire. On était tous des petits boy scouts laïcs. Et le clan éclaireur de France de Quimper a pratiquement pris le maquis. On était 21. On a perdu, dans les combats pour la libération, on a perdu 7 sur 21. Et puis le groupe a été cité à l'ordre de la nation par le général de Gaulle. Et puis les copains m'ont dit « Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et j'ai dit « Je vais passer mon bac. » J'avais un petit peu oublié qu'il y avait un bac à passer. Et j'ai passé mon bac. J'avais donc 16 ans, 17 ans. Et puis, et ensuite, j'ai dit ensuite, ben, je ne sais pas, tu peux t'engager, tu as déjà eu la croix de guerre. Je dis non, c'est fini. Ça, je vais effectivement continuer à me battre, mais à me battre peut-être, je ne tuerai plus. J'avais été amené effectivement à me servir d'une arme, à voir ce que ça donnait quand on se servait d'une arme sur quelqu'un, que ce soit des grenades ou de la mitraillette, et plus jamais je ne me servirai d'une arme. Alors les copains m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis, je ne sais pas, je vais raconter ce qui ne va pas dans le monde pour peut-être le faire connaître, ce qui ne va pas et ce qui peut aller mieux.
C'est pour ça que vous avez choisi la caméra et l'image.
Je n'ai pas choisi la caméra et l'image parce que je ne savais pas ce que c'était que le cinéma. J'avais
Alors comment vous avez fait pour vous inscrire à l'IDEC ?
C'est les copains qui m'ont expédié en me disant « Ah, qu'est-ce que tu veux faire ?» Alors je dis je vais écrire, je vais peut-être être journaliste. Ils m'ont dit « Oh, journaliste, non, tu feras des images, tiens, tu fais de la photo déjà, tu feras des images. » Et puis tu te battras en images, tu continueras à te battre comme on s'est battu ensemble là, tu vas continuer et nous on te soutiendra. Et c'est comme ça qu'on m'a expédié, avait passé le concours d'entrée à l'IDEC avec des menaces précises, on me tannerait les fesses à coups de pied si je n'étais pas reçu. Alors du coup, j'ai été reçu au concours d'entrée à l'IDEC et puis j'ai commencé à regarder ce qu'il fallait chanter, tout en continuant à m'occuper d'enfants, toujours avec l'esprit éclaireur de France. Et puis voilà, j'ai été...
Et le premier exercice pratique auquel vous êtes soumis quand vous êtes étudiant à l'IDEC, c'est la couverture d'une manifestation antiraciste. Et là, vous comprenez beaucoup de choses.
Oui, je suis... on me dit, tu as un petit film à faire. C'était la méthode d'enseignement préconisée par un gars qui était le directeur des études à l'IDEC, qui s'appelait Jean Lotz, et qui a dit il faut que chacun s'exprime un petit peu et prenne l'habitude de s'exprimer, alors et puis sache les demandes qu'il faut faire pour pouvoir monter des images. « René, qu'est-ce que tu veux faire, toi ?» J'ai dit « Je sais qu'il y a une manifestation, là, d'étudiants qui doivent sortir de la Sorbonne. Je voudrais filmer la manifestation. » On va dire « Alors là, il faut demander une autorisation à la mairie, parce que maintenant, il faut une... » Bon, on m'a montré ce qu'il fallait faire, je l'ai fait, et on m'a donné un brassard, une des caméras de l'IDEC, petite caméra, et puis on m'a dit, alors vas-y maintenant, et tu as à faire un film de 3 minutes sur la manifestation. Et j'ai été avec le brassard qu'on m'avait donné, qui était un brassard qui me classait parmi les officiels, j'avais le droit. Bon. Et puis, parmi les officiels, on m'a dit, écoute, tu vas, il y a des CRS qui vont contrôler la manifestation. Tu vas te présenter au gars qui t'aidera à faire des prises de vue, au lieutenant. J'ai mis le brassard, j'ai démontré au lieutenant que j'avais une autorisation de tournage. Et il m'a dit, mais tu restes dans nos rangs parce que ça va chauffer. Je dis, qu'est-ce qui va chauffer ? Et j'étais donc dans les rangs, avec ma caméra, dans les rangs des CRS, et j'entendais ce qu'ils se disaient entre eux. C'était tout de suite après la guerre, c'était en 40, ça devait être 46. Et j'ai été complètement sidéré d'entendre ces gens se dire, en tapotant leur matraque, « Moi, le petit bicot qui est en face, là, tu vas voir comme je vais l'arranger tout à l'heure. » Et l'autre disait, « Moi, laissez-moi le négro. » J'ai été complètement sidéré. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on voulait déjà, côté policier, briser cette manifestation, qui était une manifestation pacifique d'étudiants coloniaux. Et j'ai donc réagi assez bêtement peut-être, mais j'ai été déposer mon brassard entre les mains du lieutenant. Et puis il m'a dit, pourquoi vous avez peur de la bagarre et vous vous en allez de... Et je dis, non, je passe en face parce que je veux filmer d'en face. Pas de votre côté, je viens d'apprendre les intentions des gars, de vos gars, je passe en face. Et effectivement, je l'ai vu me désigner ensuite quand je suis passé en face avec la caméra. Et dès le début de la contre-manifestation, c'est-à-dire lorsque les policiers ont chargé, je me suis retrouvé au rang des manifestants étudiants. Et puis ça s'est assez mal terminé. Enfin, j'ai eu un bras déplacé à l'échelon de l'épaule, une énorme bosse sur le front. Et puis surtout, la caméra était cassée.
Et ça ne vous a pas empêché de continuer à faire du cinéma. Nous allons écouter un extrait de votre premier film, René Vautier, Afrique 50.
Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Mais ce village a encore de la chance dans sa misère, il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5h du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Elles ont tiré. Elles ont brûlé. Elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée. Une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, 1 femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain. 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale. 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire. C'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains.
Nous venons d'entendre cet extrait. Auparavant, je dois préciser, René Vautier, que vous aviez déjà fait un documentaire sur la grève des mineurs, mais que ce premier film, Afrique 50, est à inscrire dans l'histoire de la cinématographie française comme le premier film anticolonialiste. Et que d'autre part, à l'époque, il faut le préciser, vous n'aviez pas le droit d'aller tourner en Afrique le moindre plan sans que vous ne soyez accompagné d'un représentant de l'autorité française. Et bien évidemment, c'est ce que vous n'avez pas fait.
Non, il se trouve qu'on a eu le malheur de me dire en me lisant ce décret que, quand je demandais, mais qui a pris un décret de ce genre interdisant les prises de vue en dehors de la présence des représentants de l'autorité ? Je suis ici pour la Ligue de l'enseignement en France. On m'a envoyé pour faire un film sur la vie réelle des paysans noirs d'Afrique occidentale française. Et je n'ai pas, on me dit que je n'ai pas le droit de le filmer sans avoir derrière moi un policier. On dit oui, c'est un décret qui a été signé à l'époque par le responsable de la colonie. Et j'ai dit, et qui s'appelait comment ? On m'a dit, il s'appelait Pierre Laval. J'ai dit, mais on m'a décoré, on m'a collé la croix de guerre parce que j'avais décidé de ne pas respecter les décrets Pierre Laval en France, des décrets qui prenaient pendant l'occupation allemande avec la complicité, enfin il devenait le complice des Allemands. Bon, et puis il a été condamné Donc, il n'y a plus de Pierre Laval, il n'y a plus de... Donc, je pense que je vais continuer. Et il se trouve que j'ai terminé le film comme j'ai pu, mais avec la plus grande complicité des Africains de l'époque, des Africains qui commençaient à se dresser contre le colonialisme.
Dont un certain Houphouët Boigny qui deviendra président de la République, oui, en Côte d'Ivoire.
Effectivement, et qui m'a aidé à échapper aux gens qui voulaient, il n'était pas encore devenu ministre d'un gouvernement français, mais il était député, effectivement, de Côte d'Ivoire. Et lorsque j'ai été amené à casser le bras d'un inspecteur de police qui voulait me saisir la pellicule.
Ah
là.
Bon, oui, pour oui. Vous défendre, vous cassez le bras.
Mais je n'ai pas fait exprès. Enfin, je l'ai trouvé en train de fouiller dans la pièce où je logeais à Abidjan. Il était en train de trier dans mes papiers, mais d'un côté les papiers et d'autre part les bobines de films que j'avais déjà tournées.
Pour vous les enlever, évidemment.
Oui. Et bon, ben on s'est battu. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il ne m'a pas sorti de papier pour me dire qu'il était policier. On s'est battu parce que moi, je voulais remettre les bobines qu'il avait mis à part. Je voulais les remettre dans mon sac. Et puis, c'était un premier étage. Effectivement, il est tombé par la fenêtre dans notre bagarre. Il paraît qu'il s'est cassé un bras. Toujours est-il qu'il avait un bras encore valide, et qu'il a sorti un revolver et qu'il s'est mis à tirer des coups de... Tout en fuyant, parce qu'en été, je logeais dans un quartier où il n'y avait que des Africains.
Alors, il faut dire que cette aventure africaine vous a mené très loin. Vous la racontez dans Caméra citoyenne, cet ouvrage passionnant de vos mémoires, et vous racontez que... Vous êtes obligé de changer de pays pour pouvoir échapper aux policiers et que pour pouvoir acheminer les bobines que vous avez déjà tournées et pour pouvoir continuer à travailler, vous n'hésitez pas à vous faire passer pour mort.
Oui, c'est un petit peu résumé. J'ai eu beaucoup d'ennuis avec l'administration, avec les gens qui me recherchaient, qui ont réussi à un moment donné à m'arrêter. J'ai été libéré par des Africains qui ensuite m'ont montré certaines choses qu'ils voulaient faire connaître en France. Et la pellicule est rentrée dans les bagages d'étudiants africains qui rentraient en France. Et moi, j'étais très malade. Là, j'avais une crise de palu et j'ai été pris en charge. On m'a remis entre les mains de deux petites infirmières africaines. Elles ont appris qu'on allait me rechercher dans le quartier. Et puis, elles ont décidé pour me faire passer dans un autre quartier africain de Dakar. Elles ont décidé qu'il fallait me faire passer pour mort. Il y a eu un poème africain, d'ailleurs, qui a été fait là-dessus. Il est mort trois fois. Et à chaque fois, il y avait deux jeunes filles africaines qui le sauvaient. Et puis, un gars, un jour en France, qui est venu me chanter cette chanson sur l'histoire du petit blanc à la caméra rouge, qui était donc une chanson en wolof. Et elles ont réussi effectivement à me faire passer de quartier en quartier avec un concert de pleureuses et ça les amusait beaucoup.
Mais vous n'êtes pas superstitieux, hein, quand même.
C'était la seule façon de me couvrir le visage parce qu'un blanc dans un quartier africain là-bas, un blanc recherché, ça voulait dire un blanc attrapé. Je les remercie beaucoup. Je les ai remerciés depuis, on les a retrouvés.
Mais quand le film est sorti, il a été censuré.
Oui, finalement, il y a eu des leaders africains qui ont dit « ça va provoquer réellement des bagarres ici. Si vous réussissez à le trouver, à l'arrêter, vaut mieux l'expulser, vaut mieux qu'il le laisser partir. » Et on m'a trouvé une place sur un bateau en disant « de toute façon, on le rattrapera en France ». Je n'avais pas de pellicule, j'avais plus de caméra. J'ai retrouvé tout ça en arrivant à Paris. Et puis en même temps, j'ai appris qu'à Abidjan, j'étais condamné à un an de prison pour tournage de film sans autorisation du gouverneur. Alors, l'histoire du film, c'est j'ai quand même réussi à le monter, à reprendre une partie de ce qui avait été saisi à la Ligue de l'enseignement, à le monter, et puis à aller le présenter à un festival international de jeunes réalisateurs. À l'époque, c'était à Varsovie. Et le film a eu le grand prix du meilleur film mondial de jeunes réalisateurs, attribué
à 21 ans.
À 21 ans, oui. C'était réservé aux jeunes réalisateurs. Là. Et le président du jury s'appelait Joris Evans.
Eh bien, justement, nous allons écouter sa voix. Il va s'expliquer sur sa conception du documentaire.
Moi, je suis un des rares cinéastes qui voit dans mes films aussi une tâche, on peut dire. On ne peut pas parler de mission, mais d'une tâche. Il faut être modeste envers les grands événements. Quand on a des choses dans notre histoire contemporaine, de ne pas faire seulement les reportages d'actualité, mais faire une sorte d'œuvre d'art qui pénètre, on peut presque dire, dans la vraie réalité, qui entre et qui découvre les relations entre les événements. Et je crois que c'est une des grandes tâches pour le film documentaire, ça. C'est son grande différence avec le film fiction, et aussi la différence avec le film reportage et actualité. J'ai fait aussi un film à Mali, République Mali, j'ai fait un film à Cuba, maintenant à Vietnam, et je travaille beaucoup avec les gens aussi du pays, les opérateurs. Parce que comme ça, je suis très proche de la population, on n'a pas cette barrière de langue, parce que je parle 5-6 langues, mais pas, même pas 12, parce que j'ai été dans un pays où je ne comprends pas la langue. Alors là, comme je dois travailler beaucoup aussi avec, chaque fois avec des autres opérateurs, et aussi je donne toujours une sorte de mot d'ordre, on peut dire, c'est la caméra dans l'action. Pas observer l'action, mais être là-dedans. Aimer quelque chose, pas aimer quelque chose, même avec la caméra. On peut caresser une action ou un objet ou une personne. On peut aussi haïr.
Oui, mais c'est très frappant dans tous vos films, qu'il s'agisse de Terre d'Espagne et qu'il s'agisse maintenant du 17e parallèle. Vous avez été du côté du Nord-Vietnam et on a l'impression que vous faites la guerre presque avec eux. Vous êtes intégré à cette population nord-vietnamienne.
Oui, c'était aussi nécessaire pour vraiment apporter de cette guerre quelque chose qui surpasse le reportage et le... Et l'actualité qui vraiment pour entrer dans une action où les gens et la population, c'est la population du district de Vinh Linh à le 17e parallèle, c'était 2 km du 17e parallèle, où chaque mouvement peut être la mort ou continuer la vie et lutter contre l'agresseur. Toutes ces choses viennent d'une telle violence, on peut dire, qu'il faut que moi-même je devienne aussi presque un combattant. Et je dois participer et partager avec eux aussi toutes les difficultés.
Nous venons d'entendre la voix de Joris Evans, dont vous avez été très proche, René Vautier. Donc vous l'avez rencontré quand il vous a remis ce prix.
Oui.
Mais à partir de là, est née une amitié et une conception très proche du cinéma comme possibilité de témoigner oui. des chaos du monde.
Oui, et puis la compagne de Joris Evans.
Marceline Loridan.
Oui, nous nous sommes retrouvés dans l'Espagne qui s'était pas encore complètement débarrassée du franquisme. Et on était invités à un jury et on a projeté des films de Joris Evans là-bas sur la guerre d'Espagne, dans l'Espagne qui n'était pas encore complètement...
Sans être censurée.
Oui, enfin, on était membre du jury, donc les films, on les a projetés pour des journalistes, pour voilà. Et Marceline Loridan était réellement une battante.
Et, elle l'est toujours.
Personne n'a pu l'empêcher de participer au festival et aussi d'y projeter. Les films de Joris. Et puis là, pour il y a aussi d'autres personnes qui nous ont soutenus ici, en France, pour ce genre de films que nous faisions, parce que Marceline Maintenant, on sort un film de Marceline, ici, mais qui a été interdit au moment où il a été fait. C'était un film sur, qui a été fait dans la première année d'indépendance de l'Algérie. Et puis,
L'Algérie, vous allez vivre, puisque vous allez même lancer des ciné-clubs, que vous allez appeler des ciné-pop, et vous allez permettre aux Algériens de découvrir la nouvelle cinématographie russe, notamment.
Oui, aussi, voilà. Mais là, je voudrais quand même revenir un petit peu sur Afrique 50, dont vous avez eu la gentillesse de passer à l'extrait. Là. Moi, j'ai une lettre du ministère des Affaires étrangères de la République française, daté de 96, qui me rend les droits sur le film Afrique 50.
Ah ben, il en aura fallu du temps, hein.
Et je vous rappelle que la sélection des titres de la rétrospective « 100 années-lumière » avait été faite par un comité international composé de plusieurs personnes. Ce comité avait insisté alors sur la participation évidente du cinéma dit militant de l'après-guerre aux années 70, et Afrique 50 représentait, avec Les Statues meurent aussi et Kashima Paradise, un cinéma documentaire courageux et nécessaire. Si, en effet, comme vous nous l'avez parfois reproché, Afrique 50 n'était pas inscrit au catalogue du ministère des Affaires étrangères, il a cependant toujours été présenté, cela dans plus de 50 pays. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens au ministère des Affaires étrangères qui s'occupaient des questions cinéma et qui pensaient que Afrique 50 était effectivement un film qu'il fallait diffuser pour montrer qu'il y avait des Français qui avaient lutté contre le colonialisme en pleine période coloniale.
Et vous ?
Et voilà. Et là, la copie 16 mm unique en France, point d'interrogation, il se trompait. Il y avait des tas de gens qui avaient tiré à leurs frais des copies d'Afrique 50. Il y a maintenant, j'ai un autre papier là, qui dit « L'homme aux millions d'entrées pour un film interdit, Afrique 50, revient sur la genèse de l'œuvre et sa carrière hors du commun ». Le film a été tiré là pour ce journal qui le diffuse, qui a souhaité le diffuser. Il a été tiré à 12 000 exemplaires. Il y a 12 000 copies du film qui existent là et qui sont diffusées maintenant.
Bah, ça fait plaisir, René Vautier, de voir que votre travail, des décennies plus tard, peut être enfin vu.
Oui, ça, je dois reconnaître que ça m'amuse. J'en suis très content.
Mais en même temps, on peut dire que vous n'avez jamais cessé de lutter contre toutes les autorités, qu'elles soient administratives, policières, de censure, que ce film Afrique 50 a été très important dans la lutte contre le colonialisme, qu'ensuite vous avez vécu à Alger où vous avez continué à être justement de ces Français qui aidaient l'indépendance de l'Algérie, et qu'ensuite vous avez été reconnu dans le monde entier par ce film qui s'intitule « Avoir 20 ans dans les Aurès ». Nous allons en écouter un extrait.
Il retrouve les corps, les crânes, les os qu'on a laissés derrière nous. On s'est de Nuremberg. Et en plus, c'est con. Pour chaque corps qu'ils retrouvent, qu'ils enterrent, il y en a 10 qui voudront nous tirer dessus. C'est nous qui lassons la graine de Felaga.
Ça m'arrive.
Ah, oh, attends.
Oh, ouais. C'est une chaleur. Viens, allô. Ça m'arrive.
Oh, merde.
Reste avec nous.
Putain.
Oh merde! Oh les cons!
Rappelle-toi. Premier accrochage.
Plante-toi!
Je suis sûr que le lieutenant vous avait amené là exprès. Pour qu'on se fasse tirer dessus. Parce qu'à ce moment-là, on répond, tu comprends? On a la pétoche, puis on répond.
Au début,
On tire n'importe où parce qu'on a la trouille.
Et après on vise et on y prend goût.
Tire pas con, c'est un gosse.
De toute façon, dans 10 ans, ça fait un fellows.
Donc, avoir 20 ans dans les Aurès, c'est un travail de fiction, si j'ose dire, qui met en scène des personnages. Et en même temps, ce travail de fiction a été préparé par un immense travail documentaire. Comment, René Vautier ?
De toute façon, j'étais, au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie, je travaillais sur un film à la Bibliothèque nationale, avec la complicité des gens de la Bibliothèque nationale, qui me disaient « mais il faudrait quand même que des gens sortent ce qui est écrit ici ». Et qui est écrit, ce sont les rapports des gens sur la guerre d'Algérie, des gens qui ont fait la conquête de l'Algérie en 1830. Et j'étais donc là, en 1954, j'étais à la Bibliothèque nationale et je faisais un film pédagogique sur la conquête de l'Algérie en 1830. Je racontais que l'Algérie avait existé en tant que nation à partir des textes de l'époque, qui tous étaient des documents de la Bibliothèque nationale. Et à côté, il y avait aussi les rapports des gens qui avaient participé à la conquête de l'Algérie. Et j'ai rajouté une phrase dedans qui disait « Peut-être conviendrait-il de tenir compte de ces conditions de la conquête de l'Algérie pour dire que l'Algérie est entre deux pays qui ont eu leur indépendance et il y a des gens qui se battent pour que l'Algérie aussi ait son indépendance aujourd'hui. » Et j'ai été poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, parce qu'on m'a dit « mais l'Algérie, c'est 3 départements français, vous voulez dire que 3 départements français vont se séparer de la France ?» Attention, monsieur Vautier, c'est grave de vous engager sur cette voie-là. Et j'ai dit « mais il y a des gens qui se battent pour ça maintenant ». Est-ce qu'on va continuer à les laisser se battre jusqu'à ce qu'ils gagnent ou est-ce qu'on va trouver... On m'a dit, de toute façon, ce n'est pas votre affaire.
J'ai dit, ça l'est devenu, votre affaire.
Ça l'est devenu. J'ai dit, je vais aller voir. Comme on me disait que l'Algérie, c'était la France, j'ai décidé, avec ma caméra, d'aller voir pourquoi les Algériens ne voulaient plus être français et comment ils prenaient en main leur propre destin dans les montagnes algériennes. C'était un petit peu... Bon, on m'a rionné. Je suis passé en Tunisie. En Tunisie, j'avais déjà fait un film sur le premier film tunisien de la Tunisie indépendante présenté à Cannes. Je l'avais fait avec la complicité d'un gars qui était étudiant et qui est devenu ministre après, et tout en restant journaliste, et qui s'appelait Béchir Ben Yermed. Et donc là, quand je suis retourné là-bas, en disant « je veux aller tourner aux côtés des Algériens pour qu'ils puissent dire ce pourquoi ils se battent et comment ils se battent », Béchir Ben Yermed m'a dit « on ne peut pas trop t'aider, mais si on peut t'aider à faire un film ici, si tu veux, sur un pays qui est devenu indépendant, qui a effectivement repris ça ». Et j'ai tourné donc un film pour les Tunisiens qui s'appelait Chaîne d'or. Et ce
travail sur la Tunisie vous a entraîné reprendre le travail sur avoir 20 ans dans les Aurès.
Non, le film sur la Tunisie m'a permis d'aller participer au reportage qui couvrait à l'époque la guerre que livraient les Algériens pour leur indépendance. J'ai été blessé, mais j'ai monté le film que j'avais fait à l'époque. Et puis, je me suis donc retrouvé ensuite formant des jeunes réalisateurs algériens quand l'Algérie est devenue indépendante. Et de là, je me suis dit, en rentrant en France, après avoir formé des jeunes réalisateurs algériens et tourné avec eux le premier film sur l'histoire de l'indépendance de l'Algérie, je suis rentré en France et j'ai dit, mais il faut aussi essayer d'expliquer ce qu'on a amené les jeunes Français à faire. Et j'ai fait effectivement un travail de recherche. J'ai récolté 500 heures d'interviews de gars, de jeunes Français qui avaient participé à la guerre d'Algérie. Et à partir de là, on a fait un scénario sur l'histoire, plus spécialement de l'un d'entre eux, qui s'appelait Noël Favrelière. Et là, j'ai donc raconté quelque chose qui s'était passé pendant la guerre d'Algérie. Et ça a donné un film qui a été accepté d'une manière assez extraordinaire, côté français et côté algérien.
Alors, ce qu'il faut raconter, René Vautier, c'est que votre film a été présenté au Festival de Cannes en 1972, que vous étiez venu avec votre équipe pour assister à la projection de ce film. À l'époque, vous étiez dans un camping, je crois, à la Boca, et qu'à un moment, un soir, un fourgon de policiers est venu dans le camping. Vous vous êtes tiré en vitesse en pensant qu'encore une fois dans votre existence, on allait vous arrêter. Mais non, les policiers étaient venus pour vous décerner votre prix.
Non, pas pour me décerner le prix, pour me dire qu'il fallait que le film était retenu parmi les films qui pouvaient être primés et qu'il fallait donc que je reste là au cas où. Mais quand on a su par le gars qui nous aimait bien, qui était le patron du camping sur lequel on vivait tous ensemble, acteur et technicien du film, on est venu, le directeur est venu nous dire, écoutez, monsieur Vautier, c'est pas que vous m'embêtez ici, mais il y a deux gendarmes à cheval, non, je dis à cheval, non, on dit en moto, qui sont venus ici me voir et qui avaient des choses à vous dire, à vous spécialement. Et j'ai dit, oulala, on a peut-être fait trop la fête, ou alors, il y a des ennuis par rapport au contenu du film. Et comme on devait aller la semaine suivante présenter le film en Algérie, on a dit, on va avancer un petit peu. Moi, j'avance mon départ pour l'Algérie. Vous restez là si vous voulez. Moi, je vais, de toute façon, en tant que producteur, réalisateur, j'ai mon temps de ne pas me trouver là maintenant. Je pars en Algérie. Et puis, on reviendra. Je rentrerai en France après, quoi. Mais je veux savoir pourquoi on me recherche.
Mais le prix, vous l'avez eu.
Et le prix, on l'a eu, mais je ne le savais pas. Il y a des tas de gens qui m'avaient dit « Félicitations pour ton film », c'était des Algériens. « Ah, c'est bien qu'on te reconnaisse. » Et j'ai cru qu'ils se foutaient de moi. Je ne savais pas encore qu'il était primé.
En tout cas, aujourd'hui, avoir 20 ans dans les oreilles, c'est disponible en DVD. Il fait partie de toutes les grandes rétrospectives cinématographiques partout dans le monde. Aujourd'hui...
Et il passe sur pratiquement...
Toutes les télés.
Toutes les télés françaises. Oui,
françaises et dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Et aujourd'hui, René Vautier, dernière question, vous tournez encore ? Vous l'insoumis, vous l'indépendant, oui. Vous celui qui est le cinéaste le plus censuré, vous continuez à tourner ?
Il y a des films... j'ai continué avec cette unité de production Cinéma Bretagne qui avait produit Avoir 20 ans dans les Aurès. Et on a dit, on veut montrer qu'il est possible d'avoir une implantation en région d'un outil de production cinéma pour que les régions puissent aussi exprimer ce qu'elles vivent, les régions françaises. Et on a été projeté nos films bretons, à la fois en Corse, dans les Pyrénées, un petit peu partout en France, en Alsace, et partout c'était bien accueilli. Et on a fait donc d'abord 3 longs métrages, et puis ensuite on a continué à faire des films sur ce qui se passait en Bretagne, par exemple, on a tourné un film qui est devenu un film international de grande diffusion et qui s'appelait « Marée noire et colère rouge », qui était sur le naufrage de la Mococadis. Ce film a été utilisé en France et, parce qu'il montrait que la révolte des paysans et des pêcheurs bretons contre le massacre de leurs côtes par les pétroliers. Bon. Puis le film a été invité au moment où il y a eu un naufrage de pétroliers dans la baie d'Hudson. Et le film est parti là-bas, et les Américains ont fait un film là-dessus aussi, et les deux films ont été projetés après, à l'endroit, dans tous les endroits où il y avait des naufrages de pétroliers, et a alimenté la campagne qui a abouti, en fait, maintenant, à la nécessité de mieux surveiller l'état des bateaux qui transportent du pétrole. Tout ça, ça a fait qu'il y a des décisions internationales qui ont été prises de réglementation. Ce n'est pas encore arrivé au bout.
Vous voyez que le cinéma peut être utile.
Exactement. Et je pense que sur ce plan-là, maintenant, il se trouve que notre société de production s'est ruinée en faisant le film avec les pêcheurs, en faisant Marée noire et colère rouge. Bon, ensuite, il y a d'autres films qui ont été faits. Celui-là, on l'a donné aux gens qui voulaient l'utiliser pour se battre, pour se défendre chez eux. Mais j'ai continué à faire des films depuis.
Merci, alors, voilà. René Vautier.
Et puis, je voudrais simplement maintenant... j'ai un projet avec une réalisatrice qui est ma fille et qui dit qu'il faudrait reprendre maintenant les films pour lesquels tu t'es battu en les faisant quand tu avais 20 ans.
Mais vous avez toujours 20 ans. Hein.
Et à ce moment-là, on est en train de travailler avec Moïra, effectivement, sur un film pour lequel on a eu un appui du Centre National du Cinéma. Et le film s'appellera « Images d'histoire, histoire d'images » parce que toutes les images qu'on a pu faire pour dénoncer des choses qui n'allaient pas ont été utiles. Et qu'il est utile maintenant de montrer ce genre de cinéma qui est basé sur la réalité. Le cinéma militant, maintenant, a des possibilités immenses dans la mesure, aujourd'hui, n'importe qui peut filmer avec une caméra.
Et même avec son téléphone. Donc on attend avec impatience votre prochain film.
Oui, le prochain film sera certainement le dernier. Ça s'appelle « Image d'histoire, histoire d'image ».
Il ne faut jamais dire le dernier. Hein.
Ce ne sera pas mon film, mais ce ne sera pas le dernier film de ce genre, parce qu'on le fait à deux. On le fait avec Moïra Chapdelaine Vautier, qui est ma fille. Et je pense que là aussi, les gens se rendront compte que même lorsque on a des problèmes avec des images, ces images-là, si elles provoquent des problèmes, c'est justement qu'elles ont une raison d'être et une raison de participer à un combat.
Merci. Voilà. Merci infiniment, René Vautier, pour tout ce que vous nous apportez. Je rappelle qu'on peut voir vos films, certains de vos films en DVD, et qu'on peut lire ce formidable bouquin qui s'appelle « Caméra citoyenne, ce sont vos mémoires », publié aux éditions Apogée. Merci aussi à toute l'équipe de Hors-Champ, Claude Niort, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde et Brigitte Bouvier. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.